Bienvenue dans Osons l'intime, une chronique portée par Claire et Céline du collectif Féminin Naissance Royan Vercors, dans laquelle on ouvre de nouveaux horizons autour de sujets souvent tabous, relégués au couple, à la famille ou à nos réflexions individuelles. Des partages d'une dizaine de minutes de nos vécus de femmes cisgenres et d'accompagnantes. Bienvenue à toutes et à tous dans Osons l'intime pour une nouvelle chronique proposée par le collectif Féminin Naissance Royan Vercors. On accueille aujourd'hui Claire et Stéphanie autour de la table. Bonjour.
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 Et c'est Claire qui nous propose une chronique. Aujourd'hui, on se pose une question. Comment vit-on un célibat épanouissant, Claire?
Ouais, et moi c'est vrai que c'est un sujet qui me touche particulièrement parce que j'ai été célibataire la plupart de ma vie. Et donc c'est un peu voilà les fruits de mon cheminement et de ce que j'ai pu vivre et de ce que j'ai pu mettre en place pour vivre justement ces périodes de célibat de la manière la plus féconde possible, on va dire. Déjà, j'ai envie de poser que en fait aujourd'hui, j'ai l'impression que dans l'inconscient collectif, il y a quelque chose de être célibataire pour une femme, c'est pas normal quoi, c'est que il lui manque quelque chose dans sa vie, que du coup elle le subit, que potentiellement sa vie elle est ratée parce qu'elle est célibataire ou parce qu'elle est sans enfant, parce que voilà. Et donc on a typiquement les archétypes de la Catherinette par exemple, donc qui est toujours pas mariée à l'époque, c'était à 21 ans, c'était tôt, mais quand même je trouve que cet archétype il est toujours vivant. Il y a l'archétype aussi de la vieille fille à chat, voilà, qui se retrouve seule avec ses chats, et donc c'est vraiment horrible. Et déjà, j'ai envie de poser de, bah, en fait, non. En fait, si c'est un vrai choix, si on se sent aligné, si on se sent bien, si on se sent, voilà, si on sent que c'est ça la vie qu'on a envie de mener, bah, ok, super, en fait. Et que notre valeur en tant que femme, elle ne réside pas dans le fait de fonder un foyer, de faire famille, d'avoir des enfants. Même si, je trouve, voilà, c'est encore très présent, prégnant dans l'inconscient collectif. On a le droit de vouloir construire autre chose, on a le droit de voilà de donner naissance à autre chose que des enfants, à des projets, à des envies, à des élans. Et donc notre valeur ne réside pas dans notre statut marital.
Et tu penses que les hommes sont moins soumis à cette vision justement négative s'ils demeurent célibataires?
Ouais, bah il y a quelque chose oui quand même encore une fois dans l'inconscient collectif hein, je dis pas que moi je partage ça et je dis pas que tous les hommes, mais il y a quelque chose d'un homme célibataire de toute façon voilà, c'est un truc bah il fait sa vie, il est potentiellement aventurier, il fait ses trucs. Ouais.
Ce serait plus un choix, enfin, ce serait plus vu comme un choix de la part d'un homme que de la part du
femme. Ouais, complètement. Et donc, on projette aussi beaucoup plus que c'est quelque chose d'épanouissant pour un homme et que ça l'est beaucoup moins, voire impossible que ce soit épanouissant pour une femme, ouais. Ouais. Et en même temps, moi, typiquement, j'ai souffert, en fait, du célibat pendant de longues années. Donc, il y avait quelque chose de, en fait, moi, je me racontais un peu l'histoire à un moment, dire ouais non mais c'est cool en fait d'être célibataire, et puis mais dans mon fort intérieur il y a vraiment quelque chose qui disait non mais en fait c'est horrible, enfin vraiment c'est pas ça mon choix. Et donc voilà, j'ai envie de vous partager quelques petites choses que j'ai mises en place pour justement trouver une sorte d'épanouissement, en tout cas une sorte de sens peut-être aussi à ce célibat que dont j'étais pas spécialement heureuse. Première chose qui m'a beaucoup aidée, c'est d'accepter, alors ça a mis du temps, mais accepter que inconsciemment, il y avait plus d'avantages pour moi être célibataire que d'inconvénients. Et donc clairement, pour moi, il y avait la peur de souffrir, la peur d'être abandonnée par mon partenaire. Mais ça, c'était très, voilà, très inconscient. Et donc, c'est d'avoir cheminé en thérapie et de aussi avoir cheminé dans un coaching collectif qui m'a permis de mettre ça en lumière, de l'accepter et après de voir justement qu'est-ce qu'il y avait dans les avantages à être célibataire, qu'est-ce qu'il y avait dans les inconvénients.
Un coaching spécifique sur ce thème-là?
Oui, ouais, complètement. Qui était super de Gaëlle Lann de Viens on s'aime. Je vous mettrai le lien parce que vraiment pour moi elle est très pertinente et elle m'a beaucoup beaucoup aidée dans ce parcours. Et en lien avec justement cette balance avantage-inconvénient, il y a aussi les croyances que j'avais sur le couple. Et comme effectivement, je voyais beaucoup de couples autour de moi dysfonctionnels, où les personnes ne parlent pas, où elles ne sont pas épanouies, où elles se sont choisies un moment, mais qu'elles arrêtent de se choisir, et puis que du coup, c'est juste, pour moi, c'est des relations qui ne sont pas vivantes. Bah, en fait, bien sûr que ça ne me donnait pas envie quand j'observais ça autour de moi. Quand j'étais petite, mais aussi après en grandissant, il y avait quelque chose qui ne disait pas non. Et donc pour moi, ça a été de vraiment retravailler ces croyances en disant en fait quelles croyances j'ai envie de nourrir et quelles croyances j'ai envie de nourrir pour mon couple à venir quoi. Et donc ça, c'est en lien avec, pour moi, la deuxième invitation, c'est de vivre ce célibat comme une préparation au couple. Je veux dire, on vit bien une préparation à la naissance. On sait que la naissance va venir. Et bah, de vivre une préparation au couple, de dire, en fait, ok, en fait, je veux déjà d'assumer, de dire, j'ai envie d'être en couple, donc je vais mettre du temps et de l'énergie à, comme pour moi, préparer le terrain, pour, voilà, créer un terreau fertile pour la relation à venir. Parce qu'en fait, la relation de couple, en tout cas la manière dont moi j'ai envie de la vivre, c'est-à-dire où il y a de la communication, où il y a de la conscience de mise, où il y a de la remise en question, et ben en fait ça remue vachement, parce que moi aujourd'hui je ne suis plus célibataire, donc voilà, je le vois, je suis un peu dans le concret maintenant, et ben je suis contente en fait d'avoir eu toute cette phase où j'ai appris à prendre soin de moi, donc à identifier ce qui me fait du bien. Là je peux vous renvoyer aux épisodes de la chronique, voilà, sur comment on prend soin de soi. Et donc aussi, je vois que si je prends soin de moi, bah, je peux aussi prendre soin de l'autre quand l'autre a besoin. Parce que ça aussi, enfin, dans un travail d'équipe, voilà, on n'est pas toujours au top les deux. Donc comment je peux aussi prendre soin de moi et pour soutenir l'autre, j'ai besoin de prendre soin de moi. Et donc comment aussi j'apprends à conscientiser comment prendre soin de la relation. Donc développer l'auto-empathie, de ne pas attendre que ce soit à l'autre de m'offrir de l'empathie, mais moi-même d'être en capacité de m'offrir de l'empathie. Et voir aussi, en fait, quand l'autre, mon partenaire, ne peut pas m'offrir quelque chose, comment je peux aller demander à des amis, à des proches. Voilà, c'est ça aussi d'apprendre à, pour moi, à pas tout mettre dans le panier du couple. Et aussi, deuxième point de cette préparation au couple, comment je vais choisir mon futur partenaire. Parce que, pareil, je me suis rendu compte que je choisissais ou je ne choisissais pas. Et c'est ce qui faisait aussi partie de mon célibat. Et du coup, comment je vais identifier des qualités et des valeurs qui sont importantes pour moi et pour être en relation? Et comment, du coup, je vais savoir les reconnaître chez l'autre? Et aussi, comment je vais les incarner, moi, pleinement? C'est-à-dire que j'attends pas d'être en relation avec telle ou telle personne qui va incarner telle ou telle chose pour l'incarner moi-même. Et notamment cette fameuse liste que moi j'ai vu beaucoup en fait passer, même sur les réseaux sociaux, etc., de oui, fais ta liste, demande à l'univers. Sauf que dans la liste, il y a je veux qu'il soit beau, je veux qu'il soit drôle, je veux qu'il soit musclé, je veux qu'il soit grand. Mais ça, en fait, c'est notamment grâce au coaching que je l'ai conscientisé. En fait, ça ne dit rien sur la qualité de la relation à venir et comment on va communiquer. Et comment on va avoir des valeurs communes et comment on va co-construire ensemble. Et donc, c'est comment j'apprends à peut-être changer mon focus, changer le, voilà, ce que je recherche vraiment, ce qui est vraiment important pour moi. Parce que, voilà, souvent on a cette idée, mais qui est très pour moi liée aussi aux films, aux séries, où en fait il y a un truc de c'est très physique, c'est très coup de foudre chimique, on va dire, qui se passe dans le corps, qui se passe dans les hormones, mais qui finalement, souvent le film il s'arrête à ce moment-là du waouh, on est dans la phase justement lune de miel, mais après ça dit pas comment en fait on compose et on évolue, en fait. Et donc, pour moi, ça, voilà, c'est savoir quelle personne, en fait, j'ai envie aussi de voir cheminer à mes côtés. Et ça a été hyper, hyper important. Il y a aussi, troisième invitation, à s'autoriser à s'épanouir dans d'autres sphères que le couple. Pour moi, ça demande de faire le deuil aussi, de vivre ce deuil, de vivre ce manque, de vivre cette tristesse de... J'aimerais tellement être en couple et en fait là je peux pas, donc s'autoriser à ressentir le vide et en même temps en parallèle se dire ok, mais c'est pas parce que j'ai ce manque là, j'ai ça qui manque à ma vie, que je vais m'empêcher de de me lancer peut-être dans des projets professionnels, dans des projets artistiques, dans aussi être en intimité dans d'autres manières, mais dans des amitiés par exemple. Voilà, une intimité émotionnelle, une intimité relationnelle. Parce que aussi, je vois beaucoup de personnes qui attendent d'avoir un partenaire amoureux pour vivre si, ça, 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 ça. Ben, juste simplement se re-questionner. En fait, est-ce que vraiment, dans l'absolu, j'ai besoin d'un partenaire pour vivre tout ce que je projette de vivre avec? Effectivement, il y a tout le côté, et qui sont d'ailleurs des besoins... très important chez les êtres humains, comme le besoin de contact, le besoin d'affection, ou même de partager une sexualité, qui a priori, c'est pas donné de partager avec tout le monde. Mais du coup, par ailleurs, il y a quand même des choses, voilà, qu'on peut vivre. Et donc, voilà, qu'est-ce que je projette sur le couple? Qu'est-ce que je projette que ça pourrait nourrir chez moi? Et comment je peux le vivre autrement ou différemment? Et comment je peux en mettre aussi plus dans ma vie? Comme ça aussi, je vais, on va dire, être dans une posture de célibataire, dans une posture plutôt de « j'ai des choses à offrir, j'ai envie de partager des choses » plutôt que « je suis en manque et du coup il me faut absolument un partenaire », et ce qui peut amener souvent, ce que j'observe chez moi et aussi chez d'autres, à du coup accepter la première personne qui se présente ou accepter un type de relation qui dans le fond ne nous convient pas. Et donc ça demande aussi un ancrage intérieur de refuser les types de relations ou par exemple une manière de communiquer qui serait pas bonne pour nous, ou alors pareil, peut-être une personne qui a envie, qui peut être en relation avec nous, mais qui finalement est pas hyper disponible. Et c'est comment reconnaître pour soi, de dire en fait là c'est tentant quand même, parce que ça répondrait à des petites choses que je cherche, et en même temps dans l'absolu en fait on cherche pas la même chose avec cette personne, ou elle a pas, voilà, je la sens pas disponible, ou là, je la sens pas partante, et du coup potentiellement à renoncer en fait à être en relation avec ces personnes, pour dire bah en fait je préfère être célibataire que d'être dans une demi-relation ou d'être dans une relation qui me convient pas spécifiquement. Tout ça c'est hyper subtil, parce que en fait les relations c'est pas 1 + 1 égale, enfin en fait c'est pas mathématique, ça peut bouger, ça peut évoluer.
Mais est-ce que le risque finalement c'est pas d'avoir trop d'attentes à force de justement anticiper tout ça, se dire eh, moi il me faudrait telle qualité chez la personne que je recherche, et finalement on aurait du mal à se laisser aller un peu à l'inconnu ou à l'imprévu un peu de la rencontre?
C'est ça qui est hyper subtil, et en même temps moi comment je l'ai vécu, il y avait quelque chose de quand même d'identifier ce qui était important pour moi, et en fait je suis l'exemple vivant que en fait on peut très bien cheminer, structurer, enfin parce que moi ça m'a permis aussi de gagner beaucoup en maturité émotionnelle, relationnelle, qui me sert aujourd'hui en fait dans mon couple, mais tout en effectivement ne projetant pas il va être comme ci, il va être comme ça, puis s'il est pas comme ça alors ça va pas être possible. Et c'est ça tout l'enjeu je trouve, mais de quand on est aussi dans une forme de recherche et de conscience de soi-même, c'est de cheminer, d'être sur un chemin quand même, d'identifier, de mettre de la conscience, mais sans s'enfermer dans des boîtes, dans des cases et dans c'est comme ça. Mais typiquement s'autoriser, par exemple on rencontre quelqu'un et en fait il est a priori pas dispo, s'autoriser à dire moi ça me rend triste parce que en fait moi j'aimerais être avec un partenaire plus disponible. Et de voir ce qui se passe, en fait. C'est toujours un peu ce truc de s'autoriser à dire ce qui se passe pour soi et de voir comment ça va faire écho chez l'autre, et de voir en fait ce qui se joue, mais aussi oser sortir d'une relation parce que on la trouve pas assez épanouissante, pas assez nourrissante. Parce que moi, ce que j'observe autour de moi, c'est y a beaucoup de couples où en fait c'est ça qui se joue, mais les personnes ont peur d'être toutes seules, ont peur justement d'être célibataires, et du coup elles restent dans une relation mais qui finalement les... Mais après, voilà, libre à chacun, chacune de faire ce qu'il ou elle veut. Enfin, voilà. Pour moi, il n'y a pas de jugement de valeur, mais juste de dire, c'est possible, en fait. Mm-mm. Et du coup, pour moi, dernier point, c'est l'idée de, du coup, de pendant cette période de célibat, aussi de cheminer sur comment on peut prendre soin de soi et aussi dans devenir son propre parent. Parce que pour moi, dans le couple, il y a beaucoup de choses qui se rejouent de comment on interagissait en enfant en tant que parent, donc comment on peut projeter des choses sur son partenaire ou sa partenaire de ce qui s'est joué dans l'enfance. Et donc voilà, comment on peut apprendre à, ouais, ça, une forme d'autonomie, de prendre soin de soi, ou en tout cas de se faire accompagner aussi par rapport à ça, parce que de toute façon le couple pour moi va venir réveiller des choses, mais comme typiquement avoir des enfants c'est pareil, ça vient voilà réveiller des choses potentiellement qui restaient tapis dans l'ombre bien tranquillement, et puis hop là d'être en relation ça vient réveiller des choses, ça vient parfois nous piquer à vif. Et donc c'est comment on apprend aussi à ne pas projeter sur l'autre que c'est l'autre le problème, que de toute façon toi t'es comme ci, t'es comme ça, nanana, mais plutôt de dire ok, l'autre fait des choses. Alors là je parle pas de violence, je parle pas vraiment de, voilà, je parle plutôt des choses qui se passent de l'ordre de la relation, et du coup comment je vais pouvoir cheminer pour me connaître mieux et pour aussi cultiver voilà mon propre terrain pour pouvoir après m'engager dans la relation, faire confiance à l'autre, avoir confiance que si, voilà, que si l'autre est là, bah, il est vraiment là, recevoir son amour, accepter aussi ses qualités et ses défauts. Parce que, voilà, tout le monde a des qualités et des défauts et c'est pas facile forcément d'accepter ses défauts, mais voilà, l'autre a des défauts, moi aussi. Et donc, c'est comment aussi pour moi accepter cette idée de, d'interdépendance, c'est-à-dire que je peux choisir une personne avec qui je vais me mettre en couple et donc de qui je vais accepter de devenir dépendante. Moi, c'était un gros sujet de, voilà, c'est un danger en fait pour moi d'être dépendante d'une autre personne. Mais en fait, en tant qu'être humain, il y a cette interdépendance et même dans le vivant d'une manière générale, il y a aucun être vivant, que ce soit les humains, les animaux, autres qu'humains, les végétaux, les minéraux, les... En fait, tout est interdépendance. Et donc, c'est comment je l'accepte aussi. Et en même temps, de me dire, je suis pas obligée de me rendre interdépendante avec telle ou telle personne qui, avec qui c'est pas bon pour moi, c'est pas sain, c'est pas nourrissant d'être en relation. Mais c'est comment de se dire, ok, en fait, moi, en tout cas, j'avais besoin de, voilà, de me sécuriser, de dire, ok, je suis capable de choisir une personne qui est bonne pour moi. De reconnaître en fait qu'est-ce qui fait qu'une personne elle est bonne pour moi ou pas, et après comment je vais accepter en fait cette interdépendance. Donc cette interdépendance, ça veut dire en même temps j'ai une forme d'autonomie et en même temps pour certaines choses bah en fait non, je peux pas répondre à tout par moi-même. Et voilà, et c'est comment oui, c'est ça, enfin pour moi ça a été en tout cas une période de m'éduquer à certains sujets, de cheminer aussi pour pouvoir entrer en relation de manière plus, peut-être plus sereine, plus claire, plus... Voilà. Mais aussi parce que c'est ça, mon envie d'être en couple et que ce soit un espace de coévolution, de conscientisation des choses. Voilà. Et j'ai envie de dire... et si vous n'y arrivez pas, si vous n'arrivez pas à trouver de l'épanouissement dans cette période, il y a des accompagnements qui existent. Enfin, c'est pas une fatalité. Pour moi, ça fait partie, hein, clairement, d'accueillir voilà, le deuil, le manque, la douleur que c'est, la souffrance. Mais j'ai envie de dire, ça dépend peut-être à quelle échelle vous le vivez. Et donc, si ça prend trop de place, voilà, il y a les accompagnements, les thérapies, les coachings qui existent. Et qui, pour moi aussi, c'est ce truc de, je vais pas m'empêcher de vivre tant que je suis pas en couple. Et donc, c'est comment aussi j'ai vu en le célibat une opportunité de cheminer sur plein de choses et de me dire, waouh, en fait, je suis célibataire et en même temps, je me nourris de plein de choses, je comprends plein de choses sur moi, c'est hyper intéressant. Et donc, comment je pense aujourd'hui, j'ai aussi moins peur potentiellement de mettre fin à ma relation si un jour, en fait, vraiment, c'est le dernier, c'est la dernière option, mais également de me dire, bah, en fait, ça va parce que je vais pas me retrouver sans rien. Je vois aussi que ça peut être une période nourrissante, féconde à d'autres égards, quoi.
Et donc, comment bien vivre son célibat, mais aussi comment bien vivre sa relation de couple, finalement
Eh ben oui, si c'est de ça dont on a envie, ouais, effectivement, pour moi, c'est les deux faces d'une même pièce, quoi.
Eh bien, merci Claire donc pour cette chronique sur le célibat que vous pouvez retrouver sur notre site internet radioroyant.fr, donc pour retrouver toutes les informations et le témoignage que Claire a partagé avec nous aujourd'hui, et les ressources également qu'on mettra donc sur le site internet. Merci Claire et merci également à Stéphanie qui était présente au micro, donc toutes les deux membres du collectif Féminin Naissance Royant Vercors, et vous nous proposez chaque semaine une chronique Osons l'intime. À très bientôt.
À bientôt.
Et au revoir. Pour de prochaines chroniques Osons l'intime, n'hésitez pas à poser toutes vos questions à Claire et à Céline du collectif Féminin Naissance Royant Vercors à l'adresse mail suivante féminin-naissance@gmail.com.